19h passée de 1 minute et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est l'heure de Curiosciné. Curieuses et curieux du jour, bonjour. Dans la vie, on voit plusieurs catégories de films. Tellement de catégories que je trouve personnellement que le titre de cinéphile, pour toutes celles et ceux qui disent aimer le cinéma, n'a pas beaucoup de sens, puisque parmi tous les milliers d'images, tous les milliards, si on compte le fait que c'est en 24 images par seconde, eh bien, en vérité, personne n'a jamais tout vu. C'est impossible à faire. Il y a beaucoup de catégories de films, et souvent, les films sont en couleur, mais pas au sens couleur versus noir et blanc. Ils sont en couleur au sens où il y a de la lumière. Eh bien, ce film dont on va parler ce soir, il commence avec un écran noir. Un écran noir dont on va parler avec les invités qui ont bien voulu répondre à mes questions dans ce nouveau numéro. Des invités qui nous parlent donc de cet écran noir absolument psyché. Jamais je n'ai vu un écran noir autant me transcender. Je suis d'autant plus surpris que c'est dans un film d'animation que je l'ai vu, mais on va voir au cours de l'entretien qui vient qu'en vérité ce n'est pas si anodin que ça que ce soit un film d'animation. Deux écrans noirs, il y en a, il y a aussi, et paradoxalement, la lumière ne s'éteint jamais, puisque même quand on est dans l'obscurité, des traits persistent dans la pénombre. Ce soir plus que jamais, donc, rien de tel que le cinéma pour transcender l'obscurité.
Curiosité. D'après le Robert De Niro,
désigne une tendance qui porte à apprendre, à connaître des choses nouvelles et cinéphiles. Rencontre avec des réalisateurs.
Entretien avec des chercheuses et autres spécialistes du cinéma.
Micro tendu aux personnes qui font vivre le 7e art.
Et des chroniques sonores.
Ressentis imagés.
Un vendredi sur deux à 19h
sur Radio Campus Paris.
Bonsoir et soyez les bienvenus dans Curiosciné. Dans ce troisième numéro, on met à l'honneur le film d'animation Linda veut du poulet, une co-réalisation de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach qui raconte l'histoire d'une petite fille qui exige à sa maman qu'elle lui cuisine le poulet au poivron de son défunt père. Un récit sur le deuil, un récit sur le souvenir aussi, sur fond de grève générale, à hauteur d'enfant, sans que ces derniers ne soient jamais rabaissés pendant ce long métrage qui est en salle depuis ce mercredi 18 octobre et dont je m'entretiens avec les deux artisans dans un court instant. En deuxième partie d'émission, le mouvement social ne sera plus en fond, mais peut-être bientôt au premier plan de la vie de plusieurs intermittentes et intermittents du spectacle, notamment celles et ceux du cinéma qui souhaitent revaloriser leur salaire de 20%. On essaie de comprendre déjà le montant de cette revalorisation ainsi que les raisons qui pourraient amener un mouvement social d'ampleur pour le spectacle avec Jean-Loup Chirol, secrétaire national du syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Merci d'écouter Curiosciné.
La tête et ensuite ils se sont baladés avec une grande tige avec la tête au bout de la tige. Souvenez-vous les enfants, demain c'est grève, hein ?
Demain c'est grève et depuis ce mercredi 18 octobre, c'est Linda veut du poulet, c'est en salle et c'est un film de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Merci d'être au micro de Curiosciné pour parler de ce très beau film d'animation où on entend à un moment dans ce long métrage les cris de joie de ses enfants en se rappelant qu'il n'y aurait pas école le lendemain pour cause de grève. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vous-même éprouvé dans vos enfances respectives, ce cri de joie de la maîtresse ou du maître qui dit « demain je suis pas là parce que je suis en grève ». Est-ce que vous avez déjà ressenti ça, Chiara Malta ou Sébastien Lodenbach, dans l'ordre que vous préférez?
Vous savez, moi j'ai d'un pays où on ne fait pas beaucoup grève, en tout cas, en tout cas pas autant qu'en France. Donc, si je me souviens bien, il y a dû y avoir deux, trois fois sur toute une scolarité, des journées où il n'y avait pas école à cause de grève. Et je me suis plutôt inspirée du sol français où je vis depuis 23 ans. Alors, ça ne se rattache pas à mon enfance, c'est plutôt le poulet au poivron qui se rattache à mon enfance. Mais la grève, oui, en France, il y en a tout le temps. Nous, quand on a écrit, il n'y avait pas forcément un moment de grève aussi fort comme c'était cette année-là, mais on pouvait miser sur le fait que le film aurait été toujours d'actualité.
C'est vrai qu'il y a quelque chose sur le rapport, sur la temporalité du film. J'aurais une question tout à l'heure. Sébastien Lodenbach, est-ce que vous avez des souvenirs, vous,
Moi, j'ai très peu de souvenirs en général. J'ai une très mauvaise mémoire. Donc oui, peut-être qu'en fouillant, je vais trouver des souvenirs de cris de joie. J'ai l'impression plutôt d'avoir des souvenirs de mes enfants étant heureux parce que le lendemain, il n'y avait pas école. Quoi.
Parce qu'il y avait grève.
Parce qu'il y avait grève. Et après... Cool, il y a grève, quoi. Voilà. La grève, c'est la joie, en fait, déjà. C'est la revendication, c'est descendre dans la rue pour dire qu'on n'est pas d'accord, mais tout ça est assez joyeux.
Puis c'est le temps qui s'arrête, enfin, le temps des obligations du quotidien. Il y a un vent de liberté comme ça, d'aller de grève. L'enfant le perçoit, peut-être il ne sait pas ce que c'est une grève, mais déjà il ne va pas à l'école. Donc pour lui, une fête ou la grève, ça correspond à la même chose.
Et le personnage de Linda se pose la question à un moment de ce que c'est qu'une grève. Et au-delà de la joie de ses enfants, il y a quelque chose d'assez heureux dans cette manière de dépeindre le mouvement social qui est en fond de ce film. Un film que j'ai vu du coup mercredi matin, donc le matin de sa sortie au cinéma. Et pour l'anecdote, je me suis emparé d'un livret que je croyais être le dossier de presse du film. Et en commençant à préparer l'interview, je me suis rendu compte que c'était un cahier de coloriage. Ce qui m'a amené à cette question, comment on concilie la projection d'un film qui est susceptible d'être dérivé en cahier de coloriage, qui a ses produits dérivés à l'entrée du cinéma, et un récit de comédie, pour vous citer Chiara Malta, qui est teinté de larmes aussi. Comment on marie ces deux pans du cinéma d'animation, on va dire, son pan sérieux et son pan aussi qui peut être colorié, finalement.
Ben non, déjà, sur le cahier de coloriage, on n'était pas tellement pour. Ça, c'est des choses qui dépassent la réalisation. Parce qu'il y avait quelque chose de trop appliqué dans l'idée du cahier du coloriage. Déjà, il y a l'idée du cahier, donc de l'école. Puis du coloriage, donc il faut exécuter. C'est comme un devoir, vous voyez. Nous-mêmes, on a pris la posture de mauvais élèves tout au long du film. Les personnages ont une seule couleur. On n'a pas forcément respecté les bords dans la mise en couleur. Donc le fait de les demander à l'enfant de colorier selon un modèle, ça nous semblait un peu contradictoire.
Et on demande aux enfants, d'ailleurs, on leur dit surtout il faut dépasser. Si vous prenez le cahier coloriage et que vous mettez de la couleur, il ne faut pas rester à l'intérieur des lignes, il faut déborder, quoi.
En fait, voilà, il y avait l'idée du devoir, ce qui nous plaisait pas beaucoup. Mais là, j'oublie votre question parce que vous êtes parti du...
Comment on concilie le fait de faire un film pour enfants, en tout cas à destination d'un public d'enfants, et des thématiques, et le fait de faire une comédie teintée de larmes. C'est une expression que vous utilisez
toute comédie un peu teintée de mélancolie. La mélancolie fait... né dans la comédie aussi. On n'a pas besoin, on ne doit pas forcément être dans un film dramatique pour sortir des larmes du spectateur. Les meilleures comédies auxquelles on a pu penser étaient toutes teintées de beaucoup de mélancolie, surtout la comédie à l'italienne, en fait. Et donc il y avait ce désir-là. Nous, en réalité, on ne s'est même pas dit on va faire une comédie, on voulait faire un film qui aille à toute vitesse. On voulait de la rapidité, quelque chose qui puisse ne pas ennuyer les enfants, mais pour mieux se permettre aussi de se poser. Parce qu'à ce moment-là, quand on se pose, ça prend un sens très particulier, quoi. Donc, c'est plus fort, en fait. C'est des larmes plus fortes, c'est descendre au milieu du rire. Et puis, on aimait bien le contraste, mais ça, en général... chacun de nous, quand on fait des films ensemble, même séparément, le contraste, c'est intéressant au cinéma. Donc c'est un film qui est avant tout un film de contraste à tout niveau, je dirais. C'est riche, c'est un plat plus riche, en fait.
Et en parlant de Sébastien Lodenbach, vous voulez peut-être compléter
Je voulais... effectivement, cette idée de contraste a été quelque chose qui est arrivé très tôt, aussi dans la perspective de faire un film qui soit dédié aux enfants, qui parle aux enfants d'une certaine manière, qui en parle comme des grandes personnes, en fait, qui leur donnent une place. Et on a souvent la sensation que les films qui sont dédiés aux enfants sont des films sur lesquels on ne porte pas peut-être la plus grande des attentions. On se dit, bon, c'est pas grave, c'est pour les enfants. C'est des phrases qu'on entend souvent, c'est pas grave, c'est pour les enfants. Or, faire un film pour les enfants, c'est une grande responsabilité. C'est presque un devoir, non, mais c'est quelque chose de très noble, en tout cas. Mais c'est très curieux, parce que même en parlant avec nos collègues cinéastes, quand on leur dit on a fait un film pour les enfants, même si c'est pour tout le monde, en fait, le film, mais on a vraiment pensé aux enfants en l'écrivant, ils disent, ah bon, comme si c'était un truc, comme si c'était un sous-film. Et nous, ce qu'on voulait, c'était faire un film joyeux, divertissant et surtout beau, en fait. On voulait faire un film avec une haute dimension artistique. Donc, par exemple, on a fait appel à une peintre pour faire tous les décors du film. On a travaillé sur la couleur de manière assez poussée. C'est très simple, mais on a l'impression que voilà, d'emmener le film sur un terrain sur lequel il y a assez peu de propositions, en fait.
C'est une proposition qui est assez forte, effectivement, au niveau des couleurs et du rapport à la lumière aussi. Si on peut parler de lumière dans l'animation, parce qu'il y a des... on parle des couleurs, mais on parle aussi des moments d'obscurité, des moments de noir. Ouais, les plans m'ont extrêmement marqué qui se passent dans le noir, puisqu'en fait, à partir du moment où le film commence, il n'y a jamais d'écran noir complet. Même dans la plus grande obscurité, il y a quelques traits qui rappellent que les personnages sont toujours là, qui sont quand même dans un environnement, même s'ils sont dans le noir. Ça aussi, c'est quelque chose qui participe à la beauté que vous vouliez apporter au film, Chiara Malta.
Ben oui, on s'est posé la question de comment traduire la nuit en animation. Donc très vite, la carte à gratter est arrivée. Et ça faisait partie de cette recherche de beauté, quelque chose d'assez élégant. En animation, la carte à gratter, c'est quelque chose qui est très cinématographique. Ça fait penser aussi au négatif, au cinéma. Et donc, quand on a décidé de traiter les nuits, mais très vite, on s'est posé cette question-là. Ça me fait plaisir que vous parliez de lumière, parce qu'il y a des moments de semi-obscurité. On a quand même fait attention, puisqu'on pouvait utiliser toute cette gamme de couleurs. Il y a des moments où on voit Astrid rentrer dans le camion, alors il fait plus sombre, il y a une idée comme ça un peu d'ombre à l'intérieur du camion. Ben, on a traité une qualité de la lumière, ou bien un rayon de soleil, tout ça a été traité. Ce n'est pas parce qu'on avait une sorte d'esprit de synthèse dans le dessin qu'on n'avait pas accès au traitement de la lumière, au contraire, encore plus. Après, le film... même de qualité d'abstraction, qui ne nous semblait pas du tout faire obstacle à la compréhension des enfants, qui vivent constamment entourés de choses abstraites, puisqu'ils comprennent la moitié de ce qui les entoure. Et donc, ce n'était pas très compliqué de s'adresser à des enfants en leur donnant à lire et à voir et écouter quelque chose d'abstrait. On pense par exemple au livre pour le premier âge, les tout petits enfants, notamment nous, pour la monochromie, on pensait aussi à Petit Jaune et Petit Bleu. Ben, c'est un livre parfaitement abstrait, qui est inscrit dans la mémoire de tous les enfants et vraiment pour la première enfance. Quoi. C'est des enfants de 4 ans qui peuvent aborder ça. En fait, plus c'est abstrait, plus on peut descendre l'âge des spectateurs et tirer vers le haut les autres enfants et même les adultes, en fait. Du coup, on prenait tout le public de 0 à 106 ans.
Effectivement, tout le public est pris dans ce film. Autre contraste, parce qu'on parlait de contraste depuis le début de cet entretien, on vient de parler de lumière avec Chiara Malta. Là, vous allez entendre la bande-annonce, qui fait que l'abstraction de la lumière va être complètement totale. Je vous laisse écouter la bande-annonce de Linda du Poulet en salle depuis mercredi.
Linda, rentre immédiatement!
T'es une voleuse, Linda, et une menteuse.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Il y a qu'elle est punie, alors elle va dormir chez toi.
Hein ? C'est ça la punition ?
C'est ça le dîner ?
Tu veux quoi ? Des surgelés comme chez ta mère ?
C'est dégoûtant !
Je suis pas une menteuse.
J'ai été très injuste. Pardon, Linda. Tu peux me demander tout ce que tu veux ?
C'est du poulet que je voudrais. Avec des poivrons.
Du poulet au poivron ?
Il pollo con il peperoni.
Poulet papa.
C'est pas vrai, j'avais oublié.
peut pas acheter de poulet aujourd'hui?
On va lui trouver son poulet.
Et elle vous a pris un poulet?
Vous la connaissez?
C'est ma sœur.
Vous faites quoi, les enfants?
On va le pêcher à la ligne, le poulet.
On va se le faire, ce poulet au poivron.
Allez, fonce!
Allô? Ah, c'est vous, chef. Oui, oui, tout ben.
Bienvenue, poulet au poivron!
Ah, j'aime pas les poivrons.
Avec cette bande-annonce, donc le rythme très enlevé dont vous parliez, Caramalta, de ce film Linda veut du poulet. Est-ce que c'est, et on parle et on entend aussi déjà en sous-texte dans la bande-annonce toutes les thématiques qui vont du deuil au mouvement social, aussi à la question du souvenir qui me concernant m'a beaucoup marqué en voyant le film. Est-ce que c'est un équilibre que vous cherchiez dès le départ de traiter du deuil et du souvenir d'un défunt? Est-ce que c'était quelque chose que vous pensiez, une chose à laquelle vous pensiez dès le début, Caramalta?
Nous, on n'a jamais envisagé ce film comme un équilibre. C'était surtout le déséquilibre qui nous intéressait. Donc, loin de nous, l'idée de composer un ensemble où chaque partie est à sa place déjà et le tout est équilibré. Dans cette idée de déséquilibre et de contraste, peut-être qu'à côté d'une certaine forme d'insolence, il y avait aussi la mélancolie de quelque chose qui est perdu et qui nous rend triste. Mais cette idée de « il faut se souvenir de quelque chose pour prouver son existence », c'était...
Ça, c'est venu très tôt.
C'était passionnant, ça, oui. On a commencé à s'interroger sur la mémoire des enfants, qui est faite d'une manière assez tordue, notamment les souvenirs des premières années, quand on demande à l'enfant de 5 ans ce qu'il était 2 ans auparavant, et bien il se souvient de rien. Alors, on lui pose la même question quand il a 10 ans, il se souvient assez de ses 8 ans. Mais il y a vraiment un moment de notre vie où le passé disparaît, comme s'il n'avait jamais existé ou appartenu à quelqu'un d'autre. Et ça nous fascinait. On n'avait pas de réponse à donner à ça. Et ça nous a mis un peu sur le chemin de la quête du souvenir. Mmh. Et puis à côté de ça, il y avait une forme d'insolence qu'on voulait raconter à tout prix, briser des règles, se mettre un peu en dehors du groupe pour le mieux intégrer à la fin. Donc chacun pense avec sa tête et plusieurs têtes qui pensent singulièrement peuvent partager quelque chose ensemble. C'était un peu le message humaniste de la fin du film.
C'est vrai que c'est un film de groupe aussi très fort. Alors il y a plusieurs groupes. Il y a un petit groupe familial avec cette mère, cette tante et cette petite fille. Mais il y a aussi le groupe des enfants qui est absolument super. Et puis aussi le mouvement social qui est en sous-texte, qui donne un côté une patte assez réaliste au film, parce qu'on peut se dire qu'on peut vivre ce genre de contexte, mais en même temps tout est vécu dans un, on sait pas trop à quelle époque se situe le film très exactement. Enfin, il y a on voit des choses extrêmement modernes, mais aussi, on peut se demander parfois quelle est la temporalité du film. On peut se demander où il est aussi, avec ce HLM perdu en plein village, parce qu'on a l'impression, on peut avoir l'impression que c'est un village dans la campagne. Enfin, est-ce qu'il y a une notion de conte aussi, où on sait pas trop où on est, on sait pas trop ce qui se passe. Le plus important, c'est l'histoire, Sébastien Lodenbach.
Je crois qu'il y a une notion d'essence, en fait. C'est sans doute lié à la particularité de l'animation, le fait qu'on fasse une synthèse avec un dessin et qu'on touche à l'essence des choses, l'essence du mouvement, l'essence des personnages. Et cette grève, c'est une espèce de grève essentielle, c'est-à-dire c'est l'idée même de la grève. Donc vous parlez de quelque chose.
On ne sait pas pourquoi non plus.
Oui, mais d'ailleurs vous parlez de quelque chose d'assez réaliste, alors qu'en fait elle est complètement improbable, cette grève. Après, on peut y croire puisque tous les magasins sont fermés. Évidemment, ça nous sert, nous, au niveau dramaturgique, parce qu'il y a cette histoire de poulet et que la mère n'arrive pas à trouver le poulet et que le poulet est la réparation d'une punition injuste qui a été en fait notre point de départ, le fait d'avoir un enfant qui est puni de manière injuste par sa mère. Et mais voilà, le fait de convoquer comme ça des images très, très colorées. Alors, on a des sons qui sont, des voix notamment, et un jeu des comédiens qui sont assez naturalistes, quelque part. Mais dans un contexte qui, parce qu'il est dessiné et dessiné de cette manière-là, c'est-à-dire que on ne copie pas le réel, c'est très différent du réel. Mais peut-être qu'on essaie d'en parler, justement, d'une certaine manière, de manière, justement, comment dire, essentielle, quoi.
Vous puisez dans le réel pour faire quelque chose de beau, finalement. Et d'ailleurs, cette manière aussi de puiser dans le réel se matérialise dans le son, puisque vous avez travaillé l'essentiel du son du film en son direct. Déjà, est-ce que vous pouvez rappeler pour les auditeuristes qui ne sauraient pas forcément ce que c'est que du son direct au cinéma, en quoi ça consiste pour vous, quelle est votre définition du son direct, et aussi comment ça se matérialise justement dans le travail du film, Chiara Malta?
Mais vous savez, quant au réalisme, je reviens un instant avant de parler de son direct, parce que je ne suis pas sûre de pouvoir donner une définition académique. Ce contexte réel, il tient essentiellement au son, cet effet de réel, parce que le dessin, on ne se pose jamais la question. Enfin, un dessin n'est pas faux ou vrai, ou ancien, ou contemporain. Si, ça peut l'être dans l'histoire de l'art, mais disons en général, cette sensation d'actualité, elle est surtout donnée par le son. Sachant que c'est une actualité assez pas totalement actuelle, hein, puisque nous-mêmes, même au niveau du son, on a mélangé des radios des années 60 avec des radios d'aujourd'hui. Il y avait vraiment cette volonté d'universel qui était donnée à la fois par le dessin lui-même, à n'importe lequel. Un film dessiné, c'est un film qui ne se situe pas forcément dans une temporalité précise. Au moins de le connoter, de dire, bon, ce film-là, il se passe au Moyen-Âge. Mais enfin, il y a quand même... On date avec moins de... c'est plus ouvert, en fait. Il y a une latitude plus ouverte sur la temporalité quand on voit un film dessiné. Mais c'est effectivement... ça tient surtout au son, quoi. Et donc, le son direct, c'est un son qui n'est pas reconstitué a posteriori, comme on fait souvent dans l'animation. C'est un son... C'est une captation du réel avec tout ce qui va avec, les accidents que le réel peut amener, les acoustiques des lieux où se passent les choses. Ce n'est pas une version a posteriori nettoyée de toute présence du présent. Et donc nous, on souhaitait ça pour un film d'animation qui se fait rarement comme ça.
C'est encore une insolence, ça, d'avoir souhaité faire du son direct.
Mais nous, on cherchait du contrebois pour le dessin. Parce que le dessin, il y avait quelque chose d'assez aérien dans ce dessin. Il fallait que le son le ancre par terre, au sol, pour donner, un peu, pour avoir une assise, pour que le spectateur puisse se reposer quelque part. Pour l'aider aussi à remplir la ligne, à lui donner plus de profondeur. C'est important, quand un dessin n'est pas complet, de s'occuper du son, quoi. Parce qu'il n'est pas toujours complet. Il y a des moments où on laisse l'imagination du spectateur, le fait de compléter certains plans ou de se projeter davantage. Tout n'est pas dit, tout n'est pas écrit, tout n'est pas dessiné, en fait. Et du coup, le son avait cette fonction-là. Nous, on s'est pris d'une manière, alors je ne sais pas si c'est insolente, mais c'était surtout un besoin que j'avais de ne pas... faire un travail sur ce film qui était la pure exécution du scénario. Parce que, venant de la prise de vue réelle, j'avais l'habitude d'interpeller l'objet scénario, qui était un objet assez précaire en prise de vue réelle. À partir du moment où il est incarné sur plateau, le plateau il est plus fort que tout. En animation, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de place à l'accident. Ouais. Et du coup, on s'est inventé... une procédure, un protocole, non, c'est des procédures, une procédure, qui était avant de se mettre à dessiner tout court, de commencer par un film sonore. Donc, on a dirigé des comédiens sur plateau, on les a mis dans les vrais lieux du film et de la mise en scène. Globalement, quelqu'un qui venait à cette étape du film n'aurait pas considéré le film un film d'animation. Il manquait effectivement la caméra, mais le reste, c'était un vrai plateau. Et pour ça, on a choisi des comédiens et pas des voix. On a vraiment fait jouer des comédiens entre eux et pas... on n'a pas fait appel à des voix isolées dans un cabin speak, un espace comme ça, neutre, où il n'y a pas d'interaction humaine.
Il y a aussi le fait que beaucoup des personnages sont des enfants et qu'on n'a pas fait jouer les enfants par des adultes qui imitent des voix d'enfants, mais par des enfants. Et les enfants, c'est une matière extrêmement vivante qui peut proposer beaucoup de choses. Donc le fait de les libérer justement de l'image et de les faire évoluer en liberté, notamment dans toutes les scènes d'extérieur, nous a donné une vivacité, une présence et quelque chose de plus vrai que si ça avait été la simple exécution des dialogues qui avaient été écrits et qui restent voilà, quelque chose de très imparfait, de très, comment dire, de très un peu sec. Voilà.
Et ça, donc ça amène ce relief dont vous parlez, Caramelta, et ça m'amène à une autre question aussi, qui est la question du travail d'un film en animation. Vous êtes du coup les co-réalisateurs de Linda veut du poulet. Comment on travaille
On pourrait dire réalisateur, ouais. Il n'y a pas d'offense, en tout cas pour moi.
D'accord. En tout cas, vous co-signez le film. Comment on travaille un film en co-réalisation dans un film d'animation, parce que on peut avoir un imaginaire qui peut se dessiner quand on se demande ce que c'est que la co-réalisation d'un film uniquement en prise de vue réelle. Enfin, on a des imaginaires de making-of avec un des deux réalisateurs qui va plus au combo, qui va plus s'occuper de la photo, et l'autre qui va plus s'occuper des acteurs. Comment ça se passe sur un film d'animation comme celui-ci?
Mais disons, moi j'ai déjà fait des films d'animation même seul. Ou en tout cas des films où il y avait des parties d'animation, mais notamment il y avait un long métrage documentaire il y a maintenant longtemps où il y avait presque 20 minutes d'animation, un quart d'heure, 20 minutes, enfin c'était beaucoup. Et à l'époque, et moi je dessine pas, donc même un réalisateur, donc déjà un réalisateur qui ne dessine pas peut faire un film d'animation. Je peux citer Wes Anderson, mais il y en a plein d'autres. Il y a au Japon Takahata. Il ne dessine pas. Donc, moi, de mon côté, j'avais fait appel à un chef animateur. Donc, j'avais un chef animateur qui guidait les animateurs. Et puis, il y avait un directeur, disons, graphique qui avait pensé au design des personnages, mais quand même avec le regard du réalisateur derrière. Comme un chef de poste, un prise de vue réelle, en gros. Et donc chaque chef de poste a sa responsabilité, mais après il y a le regard du réalisateur et ses désirs. Donc on travaille en fonction de ça. Et en gros, nous, ce qu'on a fait, c'est ben, la même chose. Et donc, sauf qu'on l'a fait à deux. Donc disons qu'à l'origine, j'ai demandé à Sébastien de me rejoindre dans cette aventure dont j'avais grand besoin. J'avais envie de faire un film pour un fond depuis longtemps. Je savais... que Sébastien, de son côté, il était sensible à cette question de faire un film beau et de taille, en tout cas de traiter les enfants comme une personne.
Et pas comme tes enfants.
Et pas comme des enfants, oui. Et en tout cas, de ne pas imaginer se dégrader en faisant un film pour enfants, voilà, de montrer que c'était possible de faire un film digne tout en ayant un public de référence d'enfants. Et puis à partir de là... j'avais des jours dans une résidence d'écriture. Il est venu, on a commencé...
Au Moulin d'Andé.
Ouais. Et où il me restait une semaine, je crois. Et donc, on a commencé à travailler là au scénario. Et à partir du scénario, je dirais jusqu'au mixage, ben, tout choix, c'est fait à deux. Ce qui ne veut pas dire trouver un compromis. On décide de faire un film à deux quand il y a une communauté d'intention. Déjà, quand on sait qu'on est très, très bien, nous, on ne s'est pas mis à travailler ensemble maintenant.
Oui, c'est pas votre première collaboration aussi.
Non. Ouais. Sébastien et Krim, on était quatre en réalité, mais on faisait partie de l'équipe de scénaristes de mon premier long métrage. On a fait des gros métrages ensemble. Enfin, on sait qu'on est vraiment très bien. Et du coup, c'était un désir partagé. C'était plus enthousiasmant parce qu'on partage l'excitation et puis même. ça soulage un peu, parce que quand il y a des difficultés, ben, on partage aussi les difficultés. Donc en fait, on a deux fois moins de difficultés parce qu'on les a partagées.
Vous qui avez tous les deux réalisé un long métrage avant celui-ci, Sébastien Lodenbach, vous partagez aussi cette idée que c'est plus agréable de partager l'excitation, tout l'engouement autour de cette mise en scène
Oui, c'est beaucoup plus rassurant en fait. Je ne sais pas si c'est plus agréable. Faire un film, on passe par plein d'états. On passe par beaucoup d'excitation, de doute, d'ouverture aussi à des propositions qui peuvent être faites par tous les collaborateurs, les collaboratrices. Le musicien, par exemple, le compositeur de la musique du film, est intervenu de manière extrêmement importante dans le film. La chef d'écho également, et toute l'équipe d'animation, toute l'équipe de son. Enfin voilà, chacun met sa pierre. On est deux architectes, quelque part, mais voilà, on a la même vision. Donc oui, c'est plus rassurant. Après, chaque film est différent. De toute façon, moi, il se trouve que mon premier film était aussi un film d'animation, mais dont la conception, et la fabrication n'avaient rien à voir. Donc, je ne peux pas comparer les deux. Les deux films n'ont rien à voir, en fait. Vraiment, ils n'ont pas été pensés de la même façon. Ils n'ont pas été fabriqués de la même façon. Donc là, c'est vrai qu'avec Chiara, on est ensemble depuis le début, depuis l'écriture. Écrire un film comme celui-là, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de ping-pong entre nous deux, beaucoup d'idées qu'on fait émerger, qu'on abandonne, qu'on remet en question. Voilà, donc c'est très stimulant en fait.
Et dans l'idée que ces deux films sont très différents, et ça va être ma dernière question, puisque vous avez une projection juste après cet entretien, on va se quitter avec un morceau de Juliette Armanet qui figure dans le film, qui s'appelle Un souvenir ou deux. Et ça va me permettre cette dernière question, qui est aussi le rapport à la musique, parce que le rapport à la musique est très intéressant dans le film. Vous avez plusieurs chansons. Il y a ce morceau de Juliette Armanet qui fait office de générique de fin au film. Et vous en avez écrit les paroles, de même que vous avez écrit les paroles des chansons interprétées par Clotilde M, Laetitia Doche ou même Pietro Sermonti qui jonche le film. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez, c'était encore une insolence aussi de prendre cette liberté d'ajouter des musiques à des chansons au film
Non, ça c'est pas très juste insolent, une envie de cinéma. Il y a plein de films d'animation qui ont des chansons, disons que nous on voulait pas forcément que les personnages se mettent à chanter à l'image. En tous les cas, on pensait pouvoir désolidariser la chose, donc entendre le personnage chanter, le voir faire une autre activité, enfin autre chose, ça nous semblait plus riche. Mais non, on a eu envie d'écrire des chansons parce que ça l'oublie. On a écrit des chansons de l'étape du scénario. La dernière de Juliette Armanet, les paroles, elles sont nées à partir de la musique de Clément Ducol. Normalement, on fonctionne à l'inverse. On avait écrit des paroles et Clément les avait mis en musique. Puis on aimait bien l'idée qu'il y ait des passages qui puissent se soustraire un peu à ce rythme effréné de la narration de Linda et sa mère qui quittent ce boulet pour approfondir un peu les personnages, leur passé, un peu leur intimité aussi. Donc Paulette, son deuil, sa souffrance.
C'est vrai que c'est presque des parenthèses tel que le film est narré. Ouais, on a presque l'impression d'avoir des clips à part entière.
Ouais, Astrid et ses frustrations, bien cette apparition magique du père, vous voyez. Mais disons que tout ça, c'était aussi pour que les spectateurs puissent se souvenir du film via la musique. Moi, il y a des films qui sont restés en moi et il me suffit d'entendre deux notes de la BO pour me rappeler. Donc c'est beau la musique au cinéma.
Mais on se souviendra de... Je ne sais pas si vous voulez compléter.
Non, elle a tout dit.
Tout a été dit. J'espère qu'on se souviendra en tout cas des musiques, mais aussi des images du film qui, je rappelle, sont vraiment magnifiques dès le premier plan qui m'a personnellement vraiment happé. J'espère en tout cas vivement que toutes les personnes qui iront voir Linda veut du poulet se souviendront, que ce soit par le son, par l'image, voire, je l'espère, les deux. Merci beaucoup, Chiara Malta et Sébastien Lodenbach, d'avoir été au micro de Curiosciné. Linda veut du poulet, c'est en salle depuis ce mercredi 18 octobre dans toutes les salles de France et de Navarre. Et je vous souhaite une belle suite et une belle vie à ce film. Merci encore.
Merci.
Merci bien.
Un souvenir ou deux, pour la vie, y a pas mieux. Hein. souvenir au neuf, bien au chaud dans mon 9, 10, 20. 21 souvenirs, toute seule en son sein. Dans ses eaux, j'étais bien, de battements de cœur. Je n'avais pas peur. Vers la lueur, je me souviens de tout. Et des cris et des coups. De la lumière et de l'air. Un souvenir sur cent, le sifflement du vent. Lointain. Un souvenir sur mille, la rumeur de la ville au loin. Mille et un souvenirs, on brise ma coquille, des yeux qui s'écarquillent, une main sur le cœur. Et je n'ai pas peur, même si je pleure, je me souviens. D'une joue, de l'air et la lumière.
Juliette Armanet qui chante les notes de Clément Ducol et le texte de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach, tous les deux cinéastes, et à la signature du film, à la réalisation du film Linda veut du poulet, qui est en salle depuis mercredi. Je les remercie encore d'être passés au micro de Curieux Ciné. On va parler dans un instant de mouvement social.
Curieux Ciné, c'est un vendredi sur deux à 19h sur le 93.9 FM et le DAB+.
Et aussi sur radiocampusparis.org et les applications de podcast.
Dit mouvement social, on s'avance peut-être encore un peu. On va en tout cas parler de salaires d'intermittentes et intermittents du spectacle et de leur revalorisation, en tout cas des négociations qui sont à l'ordre du jour de cette année 2023. Mais d'abord, on va écouter quelques publicités absurdes signées Rosalie Berne, une fois n'est pas coutume.
Du grand cinéma avec son objectif grand angle, une définition au plus près de la réalité. Enfin, une qualité cinéma accessible depuis chez vous. Oubliez les rétroprojecteurs grâce au nouveau Nokia 3310+. Un écran de plus de 1 pouce et demi pour pouvoir profiter de chaque détail. Mieux qu'un test de vue d'après 2 ophtalmos sur 3. Le dernier téléphone imaginé par le Crous. Attention, ce téléphone est maintenant cassable. Aucune garantie sur la qualité du son. Pour plus d'informations, voir les modalités en magasin.
Je t'emmènerai sans vergogne en Alsace-Lorraine. Le film tant attendu dont le scénario est basé sur le roman épique de Julia Arnaud, qui est une adaptation en BD du même nom, dont l'histoire est issue d'une pièce de théâtre librement inspirée par un podcast. Le dernier film du réalisateur de « Désolée maman, je n'avais plus d'idée originale » au cinéma le 1er novembre. Une nouveauté dans vos cinémas CGU, GUC, CUG ? Enfin bon, retrouvez un popcorn unique dans vos cinémas, le popcorn breton. Un popcorn sans popcorn, mais quand même salé. Une pâteuse inégalable d'après Mano. Le popcorn breton, après ça, vous n'oublierez plus jamais de boire de l'eau.
Le podcast Mystère et Étrangeté dédie son prochain épisode sur le thème du cinéma. Au programme, les cinéastes qui parlent dans les plus grands médias du fait qu'ils ne peuvent plus parler et ne sont invités nulle part. Puis la sociologue spécialisée cinéma nous parlera du grand mystère du manque de représentation féminine ou comment des hommes n'arrivent pas à voir que des femmes existent. Mais surtout, nous répondrons à la question « Comment font-ils pour ne pas voir leur propre mère ?» Avec un nombre d'homoparentalité faible par rapport au nombre d'humains, nous amène à penser que c'est étrange. Après le film « Maman, Laurence, Mathias, Maxime et Tom qui est à la ferme », je dois vous dire que j'ai tué ma mère avec mes amours imaginaires juste avant la fin du monde, le film du producteur qui essaie de voir la renaissance de Dolan avec un simple budget montage.
il revient avec le film d'un boxeur irlandais qui arrête tout pour devenir chauffeur de taxi, mais ses dettes au casino lui empêchent de se payer un billet pour aller sur une île où Wall Street a établi ses bureaux. Le film événement qui a provoqué une crise cardiaque à Scorsese. Le réalisateur a déjà annoncé son troisième film avec la filmographie de David Lynch en déclarant « J'ai peur que ce soit trop compréhensible ».
Merci beaucoup Rosalie Bern pour ces trouvailles publicitaires tout à fait absurdes. Je ne sais pas où elle les a trouvées, mais en tout cas, j'aimerais l'adresse de son dealer. On arrive maintenant à la deuxième partie de cette émission à 19h41. Il reste encore une vingtaine de minutes de Curieux Ciné en votre compagnie, je l'espère, chers auditeurs. Et on va parler maintenant des salaires d'intermittentes et intermittents du spectacle, notamment celle de cinéma. Jean-Loup Chirol, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire du syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision. Et vous êtes au micro de Curieux Ciné ce soir, puisque cette semaine, vous avez mené conjointement avec d'autres syndicats d'intermittentes et intermittents du spectacle une assemblée d'informations concernant une demande de revalorisation des salaires minima garantis de 20%. On va revenir sur cette demande de revalorisation. Mais d'abord, pour faire le point avec le numéro précédent de Curieux Ciné qui portait sur les grèves à Hollywood. Pensez-vous que si demain un mouvement social devait voir le jour avec les intermittentes et intermittents du spectacle, que ce soit les personnes, les techniciens ou même les acteurs, les réalisateurs, pourquoi pas, est-ce que vous pensez que ce serait un mouvement qui pourrait prendre s'il devait arriver demain en France ?
Oui, mais c'est possible. C'est possible parce qu'effectivement, dans une période difficile socialement, y compris pour les techniciens, les artistes de la production cinématographique et audiovisuelle, c'est possible. Mais ça ne prendrait pas la même forme parce que les formes d'organisation syndicale ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les syndicats sont extrêmement puissants dans la mesure où, dès qu'ils s'implantent, tout technicien qui veut travailler est obligatoirement membre du syndicat. Donc effectivement, ils ont une force et une puissance, je dirais, institutionnelle qui n'est pas la même que celle qu'on a ici. Puisque ici, l'adhésion à un syndicat, ou le fait de devenir membre d'un syndicat, est l'expression d'une volonté de la part de chacun. Donc ça ne donne pas les mêmes formes d'organisation et ça ne donne pas les mêmes formes de mouvement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ce sont des grèves très longues, où la discussion prend des heures, des choses, des jours, et le mouvement s'intensifie parce que le syndicat a tout pouvoir, d'une certaine manière, de par la délégation que lui ont donnée l'ensemble des membres du syndicat. C'est-à-dire qu'ils ont voté la grève, et donc il y a quelque chose qui les rassemble de façon très unie, puisqu'ils sont de toute façon tous membres du syndicat, quoi. Mais c'est pas le cas en France, c'est pas la même organisation. Donc ça ne sera pas sous les mêmes formes. Mais c'est possible qu'il y ait des mouvements, oui, c'est possible.
Néanmoins, c'est possible que ça arrive. Le dernier mouvement social qui a impliqué principalement les intermittentes et intermittents du spectacle en France, c'était à l'époque de la pandémie, où beaucoup d'intermittentes et intermittents avaient notamment occupé des théâtres pour demander la réouverture de lieux culturels, que ce soit les théâtres, les salles de spectacle vivants et les cinémas, ce à quoi la ministre de la Culture à l'époque avait opposé que c'était un problème de riche. Est-ce qu'aujourd'hui, la demande de revalorisation des salaires minima garantis de 20% est un problème de riche ou ça répond à un vrai problème de précarité ? Je pose la question de manière un peu provocante, mais c'est ce qu'avait répondu la majorité, le gouvernement en place, lorsque les intermittents avaient haussé le ton.
Oui, mais ça, c'est toujours la même question qui se pose, puisque les techniciens et les artistes, le problème, c'est qu'ils ne sont pas engagés sous contrat à durée indéterminée. Ils sont engagés à chaque fois pour la réalisation d'un film. Donc, dès que le film se termine, ou la série, etc., ils se retrouvent demandeurs d'emploi et il faut qu'ils retrouvent un autre emploi. Donc, il y a un aspect irrégulier dans leur emploi, et donc qui fait que les salaires ont l'air d'être assez élevés, c'est vrai, nominalement, on peut dire ça, mais quand on regarde le revenu moyen d'un technicien ou des artistes, dès lors qu'ils ne sont pas des vedettes, etc., qui ne sont pas, comme on dit en en anglais bankable.
Ça dépend du poste aussi, selon la...
En fait, le revenu annuel n'est pas très élevé. Le revenu annuel moyen n'est pas très élevé. Disons que c'est vraiment... je veux dire, il y a des métiers où on gagne mieux sa vie qu'être technicien de la production sur la fiction audiovisuelle, c'est sûr. Donc effectivement, quand on regarde les grilles de salaire nominalement, on pourrait trouver qu'effectivement elles sont assez élevées. Encore qu'il y a des salaires très proches du SMIC. Mais dans la réalité, les salaires, disons qu'il y a toujours en plus cette, l'épée de Diabocles, tout d'un coup, de passer de mode, de ne plus trouver d'emploi, de que son chef cesse de travailler parce qu'il prend la retraite et trouver un autre qui veuille bien vous employer. Parce que, en fait, l'emploi, c'est un emploi d'affinité artistique. Donc, il faut s'intégrer à des équipes. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, c'est, ils sont confrontés à un problème de bâtir une carrière. Ils ne sont pas engagés pour des années dans une entreprise.
C'est pour ça que les 20% vous paraissent justifiés ?
Non, mais c'est même pas qu'ils se paraissent justifiés. C'est que, si vous voulez, il faudrait refaire un tout petit peu d'histoire. Les 20%, ils correspondent à ce qu'ils ont perdu par rapport à l'augmentation des salaires de l'INSEE, à la revalorisation des prix de l'INSEE. Donc, en fait, les 20%, c'est ce qu'on a perdu depuis une quinzaine d'années. Il y a 15 ans, ils étaient payés 20% de plus si on tient compte de l'inflation mesurée par l'INSEE.
Depuis 2007, disent vos nombreux communiqués, oui.
Parce que, effectivement, à ce moment-là, mais on pourrait remonter plus loin, si vous voulez, l'idée, c'est que, effectivement, ils ont été pendant des années protégés par un mécanisme que notre syndicat avait réussi à instaurer, qui était un accord qu'on avait avec la Chambre syndicale des producteurs, qui assujettissait l'évolution des salaires sur l'indice des prix. Et donc, tous les 6 mois, les salaires étaient augmentés de l'inflation. Et donc, et ça, c'était pour le cinéma. Et donc, pendant des années, ils n'ont pas eu ce problème, puisque le syndicat des producteurs et le syndicat des techniciens se téléphonaient et disaient, voilà, l'inflation est de temps, et bien on signe un accord, et tous les 6 mois, les salaires étaient revalorisés. Et puis ça a cessé en 2012. Et pour le téléfilm, parce que le problème là, c'est les films de télévision, en fait, c'est un accord de 68 qui avait été signé d'ailleurs par Roger Vadim, parce qu'il était président du syndicat à l'époque, et qui assujettissait les salaires du téléfilm, des techniciens travaillant sur le téléfilm, sur le cinéma. Et donc cet accord, il a été en vigueur jusqu'en 2000. Là, il y a eu une nouvelle grille de salaire qui a été signée. Mais là encore, comme elle n'était plus reliée au cinéma, les salaires n'ont plus suivi l'inflation comme ils ont suivi dans le cinéma. Et donc effectivement, au fur et à mesure, les salaires ont diminué par rapport à l'inflation. C'est ça la question qui est posée. La demande, elle est simplement de maintenir le niveau des salaires tel qu'il était il y a 15 ans. Voilà.
Et ce...
On ne peut pas dire que ce soit une demande... excessive.
Il y a la demande de revalorisation des salaires minima garantis de 20%. Est-ce que c'est la mesure d'urgence à mener, parce qu'il y aura peut-être d'autres combats aussi à mener du côté des techniciens du cinéma ou même des acteurs. On pourra parler possiblement du doute qui est entretenu autour de la réforme de l'assurance chômage et la création de France Travail sur la question du régime de l'intermittence. Mais d'abord, vous parlez donc du rapport aussi dans votre réponse précédente du rapport entre les techniciens, les syndicats de techniciens et les syndicats de producteurs. Justement, ce sont les 4 principaux syndicats de producteurs qui ont refusé la demande de... Vous avez proposé une demande de revalorisation supplémentaire de 20% et c'est à ce moment-là qu'ils ont répondu en juillet. Pourquoi attendre jusqu'à octobre pour relancer aussi la chose ?
Vous savez, c'est tous les ans, puisque la négociation de la production de téléfilms, elle est annuelle. Donc tous les ans, on fait une demande. L'année dernière, elle devait être à 15%, puis il y a l'inflation, donc maintenant, elle a été, en juillet, elle était à 18,6, etc. Et à chaque fois, on dépose une demande. Mais, si vous voulez, les propositions des syndicats de producteurs, elles ne sont jamais au niveau de l'inflation. À chaque fois, il en manque. Et donc, ça s'accumule. Et nous, syndicats des techniciens, les techniciens rassemblés dans le syndicat, ils ne voient pas pourquoi on abandonnerait tout d'un coup, parce que, etc. Donc on redépose la même demande. Et effectivement, à chaque fois, ça grimpe parce que il y a un blocage au niveau des syndicats de producteurs. Ils disent non, nous... Alors ils ont des tas de raisons. Ils invoquent les télédiffuseurs qui, effectivement, n'en remontent pas leur prix. Mais tout ça, c'est un serpent qui se mord la queue. Parce qu'effectivement, si les télédiffuseurs constatent que les salaires n'augmentent pas, ils disent bah, pourquoi moi j'augmenterais ma contribution, enfin mon investissement. Donc l'idée c'est qu'à chaque fois il y a une volonté effectivement de compresser les coûts. Hein, bon voilà, c'est normal, ça fait partie de la vie. Hein. Les investisseurs, s'ils peuvent en mettre moins dans les téléfilms, bah, ils sont contents. Mais à un moment donné, il faut pouvoir les faire et que les gens qui les font puissent vivre de leur métier. Si à un moment donné ils ne peuvent plus vivre, eh bien. On va les perdre et on va perdre le corps des techniciens qu'on a et qui est, comment dire, qui représente un patrimoine en soi hein, à préserver. C'est un patrimoine de savoir, de choses qui se transmettent, qui sont complexes, qui sont fines, qui sont... Parce que faire un film aujourd'hui, alors c'est de plus en plus complexe parce que le numérique, il a rajouté de la complexité, il n'en a pas enlevé.
Elle est matérielle, la complexité ?
Oui, parce que le numérique, c'est une texture de l'image très particulière qui exige beaucoup d'attention. Elle exige plus d'attention que l'argentique. On ne le sait pas, ça, ce n'est jamais dit. Mais le soin qu'il faut prendre pour donner une apparence, si vous voulez, à l'image, par rapport d'ailleurs à ce qui est advenu, c'est qu'aujourd'hui, bon, on est face à l'apparition de la haute définition. Donc tout d'un coup, des choses qui ne se voyaient pas en télévision se voient. La relation du spectateur à l'image n'est quand même pas la même, même en télévision. Parce que tout d'un coup, là, il y a une texture qui apparaît dans l'image et qui fait que ce soit les maquilleurs, les décors, que ce soit la photo, l'éclairage, on est confronté à une complexification. Parce que sinon, le rendu n'est pas bon. Le rendu n'est pas satisfaisant à l'œil.
Et
donc, eux n'ont pas l'impression, les techniciens, que leur métier est devenu plus facile. On leur demande de plus en plus de choses. Donc, ils se disent, mais pourquoi mon salaire baisserait ? Et avec raison. Parce que... finalement, la technique permet beaucoup plus de choses qu'avant, c'est sûr. Des trucages qu'on ne faisait pas avant, des choses qu'on ne faisait pas avant.
Mais elle demande beaucoup plus d'attention des travailleurs.
Hein ?
Elle demande beaucoup plus d'attention, du coup, et de maîtrise aux travailleurs. Mais justement, par rapport à cette augmentation de la difficulté du travail dans le cinéma et l'audiovisuel d'une manière plus générale, est-ce que juste redéposer une demande, ça suffit ? La raison pour laquelle je pose cette question, c'est est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin aussi dans la négociation et puis aussi dans le rapport de force face aux syndicats de producteurs ?
Bon, je vous dis, ça se construit. Il y a des moments où nous, on sent que, disons, il y a une sorte, je dirais pas de découragement, mais d'attentisme, on va dire. Et puis, à un moment donné, on passe assez brutalement de l'attentisme à l'indignation. Et ça, c'est quelque chose que nous, et c'est notre travail de syndicaliste, de rappeler ça au syndicat des producteurs, qu'il faut faire attention. Vous savez, finalement, c'est très simple. Les producteurs, ils ont deux capitaux, le capital social et le capital financier. C'est eux qui gèrent l'argent, qui le rassemblent pour faire le film, et donc ils ont dans les mains le capital financier. Mais ils ont aussi dans les mains quelque chose qui est très important, qui est le capital social, c'est-à-dire la capacité à faire des films, c'est-à-dire à disposer des techniciens qui ont la compétence pour trouver les choses justes, par rapport à une mise en scène, par rapport à un scénario, par rapport à l'émotion qu'on veut faire passer. Et ça, c'est irremplaçable. Et quelque part, à un moment donné, certains des producteurs le savent très bien. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est que sur un certain nombre de films, les salaires sont beaucoup plus élevés, de l'ordre de 10 ou 15% maintenant, par rapport au salaire minimum garanti. Parce que là, c'est des salaires conventionnels. Hein, c'est en deçà de quoi on ne peut pas aller. Mais certains producteurs payent plus, parce qu'ils veulent s'attacher des compétences. Hein. Ils en ont besoin. Et ils savent qu'ils ne les trouveront pas comme ça. Et que si elles disparaissent, pour les remplacer, ce n'est pas forcément simple. Donc c'est l'atout qu'on a. L'atout de la France, c'est d'avoir un système de fonds de soutien, c'est-à-dire un mécanisme qui permet à l'économie du cinéma et de la production audiovisuelle de perdurer par un système de, comment dire, de... comment on appelle ça, c'est de l'épargne forcée d'une certaine manière, qui permet de réinjecter de l'argent et de l'investir dans des films au fur et à mesure. Et il y a la deuxième chose qu'on a, c'est des techniciens compétents. Et donc ça, il ne faut pas les perdre. Donc il y a un enjeu, si vous voulez, qui n'est pas seulement un enjeu social. C'est un enjeu culturel même. C'est un enjeu beaucoup plus vaste que ça.
Et pour...
Donc après, la négociation, les conflits, est-ce qu'il faut appuyer plus fort, est-ce qu'il faut appuyer moins fort, etc. De toute façon, nous, on sait que c'est sur la durée que, effectivement, on parvient à obtenir des choses, des améliorations, y compris d'ailleurs dans d'autres choses de la convention, parce qu'il n'y a pas seulement le fait des salaires, mais il y a aussi le fait de mieux définir les fonctions, de tenir compte des fonctions nouvelles qui arrivent. Il y a tout un travail que nous, on a à faire pour intégrer des fonctions qui n'existaient pas. Hein. Et donc ça, c'est le travail du syndicat pour les définir, pour leur affecter des salaires, pour, disons, qui engendre des formations, qui engendre des parcours professionnels. Et ça, c'est notre travail.
Hein, c'est...
Tous les jours. Et qui est constant. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on va déposer des choses sur la branche des électriciens. Parce que tout a changé dans dans l'éclairage avec l'apparition des LED. C'est devenu plus complexe avec des compétences nouvelles, des métiers nouveaux. Enfin, vous voyez. Donc on est en perpétuelle mutation, même si les fonctions régaliennes, on va dire, ou principales du secteur demeurent. Hein. Il y a toujours des chefs d'éco, il y a toujours des directeurs de la photo et tout ça. Mais effectivement, les matières changent, les façons de faire changent. Mais elles ne se simplifient pas. Elles ont tendance plutôt à se complexifier.
Ça ne se simplifie pas.
Oui,
bien sûr, ça ne se simplifie pas. Et c'est pour ça que le travail de votre syndicat et aussi de l'intersyndicale, puisqu'il y a une vraie intersyndicale autour des intermittents du spectacle qui peut travailler. Merci beaucoup, Jean-Loup Chirol, d'avoir été avec nous sur Curiosiné pour aborder bien la question de la revalorisation des salaires minima garantis de 20% et aussi, bien sûr, l'enjeu culturel que vous décriviez très bien. Je rappelle que vous êtes secrétaire du Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à vous d'avoir écouté ce numéro de Curiosiné qui est terminé pour ce soir. Merci bien sûr à mes comparses qui m'ont accompagné, Rosalie Berne pour ses publicités, bien sûr, Hugolin Crépaleblon à la réalisation de l'interview de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach que vous avez écouté précédemment. La soirée ne fait que commencer sur Radio Campus Paris. Nous avons La Souterraine à 21h et quelque chose entre les deux qui sera super à 20h. Prochain rendez-vous cinéma sur les ondes, c'est samedi avec Coco. C'est avant que la mélodie ne s'empare de tout et c'est à 20h avec un numéro qui s'attelle à la période française de Maurice Jarre. Vous allez voir, c'est passionnant. Quant à Curiosiné, on se retrouve dans deux semaines, à savoir le vendredi 3 novembre à 19h, évidemment sur le 93.9 FM et le DAB+. Et d'ici là, en podcast sur radiocampusparis.org, maintenant Spotify et sur les internets @curiosiné RCP pour toute information complémentaire. Bonne soirée.